Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Le mot marionnette évoque en Occident un art mineur, reconnu comme un art populaire depuis des siècles. Pourtant présent sur tous les continents, il est, pour nous, souvent réservé aux enfants. En Asie, en Chine, il est légal du théâtre d'acteurs, considéré comme un genre théâtral à part entière. Il rivalise avec l'opéra, dispose d'un orchestre et comporte du chant. Il existe à Taïwan différentes sortes de marionnettes. Les marionnettes à gaines, celles dont nous allons parler aujourd'hui, les marionnettes à fines et les marionnettes à tiges. Les marionnettes rivalisent avec les comédiens. Ce sont des objets raffinés, elles racontent des histoires où drames et comédies s'entremêlent. L'art de leur manipulation se transmet de maître à disciple. Que nous racontent-elles aujourd'hui ? J'accueille justement dans l'émission Point de mire le lauréat qui vient d'être récompensé en 2007 au titre de l'année 2006 par la Fondation culturelle franco-taïwanaise Jean-Luc Pinceau, créateur de la troupe du Petit Miroir, marionnettiste formé par l'un des plus grands maîtres chinois, maître Lin Tianlu. Jean-Luc Pinceau, bonjour.
Bonjour.
Quel salut de bienvenue ferait une de vos marionnettes chinoises ?
Oh, elle ferait un rituel qui dure un quart d'heure pour évoquer la présence des dieux, de l'empereur et du public. Donc on peut dire en chinois tout simplement « ni hao ».
Alors comment vous présenterait-elle ?
Comment me présenterait-elle ?
Oui.
Je suis simplement leur serviteur le plus fidèle possible.
Alors, la Fondation culturelle franco-taïwanaise récompense habituellement des ouvrages de recherche. Et cette année, elle a distingué les arts du spectacle. Est-ce que c'est pour les défendre, pour les faire connaître ?
Je crois que c'est une très bonne initiative, à part que ce soit moi qui ai reçu le prix, de défendre à travers ma modeste personne un art populaire qui a été longtemps méprisé à Taïwan dans la période contemporaine, alors que c'est un objet culturel fondamental dans la vie cultuelle et culturelle de Taïwan. Et c'est très paradoxal, puisque à Taïwan, les marionnettes ont du mal à vivre, pour certaines, mais en même temps, les Taïwanais, dans un sondage, viennent de nommer les marionnettes comme leur objet préféré et ils voudraient que ce soit le symbole de l'île.
Ah, d'accord. Alors, où, justement, situez-vous le spectacle des marionnettes chinoises ? Patrimoine ou culture vivante ? Puisque là, justement, vous êtes en train de... presque en train de situer tout ça.
C'est les deux à la fois. Mmh. C'est... patrimoniales, parce qu'elles existent donc, comme vous l'avez dit, depuis très très longtemps. Elles ont un rôle cultuel, puisqu'elles sont présentées devant les temples pour la distraction des dieux. Elles ont un rôle culturel de la culture populaire, puisqu'on en trouve à la télévision sous une forme contemporaine assez délirante. Et elles ont un rôle aussi donc culturel à travers les petites marionnettes du nord de l'île que j'ai étudiées.
Est-ce qu'on peut dater l'origine des marionnettes, non ?
Alors, ça date du XVIe siècle, où elles ont été créées par un mandarin qui s'appelait Wei et qui avait été chassé de son poste par un préfet corrompu. Et pour gagner sa vie, il avait fait des petits spectacles qui étaient rapidement devenus des spectacles satiriques pour critiquer ce préfet corrompu. Et au fil des siècles, elles ont pris une dimension plus importante, donc un rôle rituel, jusqu'à aujourd'hui. Et on pense que ces petites marionnettes qui se disent Putaisi viennent à travers la route de la soie de l'Inde, puisqu'il y avait énormément de commerce maritime entre l'Inde et la Chine du Sud et le Fujian, puisque en sanskrit, Putaisi, marionnette, se prononce Putali. Et donc on pense qu'il y a une similitude. Mais tout ça, ce sont des supputations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves directes de cette hypothèse.
Alors, quel répertoire ou quel thème trouve-t-on dans les opéras chinois ou les spectacles de marionnettes ? C'est pour donner une idée générale.
On trouve dans le répertoire toutes les pièces classiques qui sont aussi bien jouées pour l'opéra que pour les marionnettes. Le répertoire est quasiment le même, sauf dans le sud de Taïwan, où c'est un autre genre, où là c'est un répertoire mythologique un peu différent. Mais ce sont tous les grands classiques de la littérature chinoise et des pièces qui ont été écrites spécialement pour l'opéra qui sont jouées pour les marionnettes. Et une précision d'importance, ce sont les marionnettes qui sont à l'origine de l'opéra et pas le contraire.
Oui, ça c'est très important.
Voilà.
Oui. Alors, quels personnages trouve-t-on ? Des héros, des animaux, des monstres, je ne sais pas.
Il n'y a pas de personnages génériques, puisque ce sont donc des pièces de théâtre, un peu comme on peut trouver dans Corneille, Molière ou un autre auteur contemporain.
Oui.
Il y a des personnages qu'on retrouve plutôt souvent, mais si vous voulez, il n'y a pas un personnage comme Guignol ou Gnafron ou Karagöz pour les ombres turques. Ce sont donc des héros qui sont souvent, selon les compagnies qui jouent, soit des héros guerriers, puisque les troupes se spécialisent dans des pièces plutôt littéraires ou plutôt guerrières, soit des héros lettrés. Alors, il y a aussi des héros mythologiques qui sont plus souvent présentés, tels que...
Le roi des singes,
Le roi des singes, exactement, qui est mon favori.
Ah bah en plus,
voilà.
je voulais vous demander, de, justement, à travers cet exemple, de nous décrire un petit peu ce personnage.
Alors, Sun Wukong est un personnage qui a été créé par Wu Chengen dans un roman qui est un des grands classiques chinois, Le Voyage en Occident.
C'était écrit quand ?
Ça a été écrit sous les Ming, sans qu'on sache très précisément à quelle époque. Enfin, si on doit le savoir, mais moi je ne le sais pas, soyons honnêtes. Et c'est sans doute une compilation, comme d'habitude en Chine, de différentes légendes. Et cette histoire raconte comment le moine Tan San Zhang a étudié pendant 17 ans en Chine et a étudié pendant 17 ans en Inde et a ramené de l'Inde les sutras pour diffuser le bouddhisme en Chine. Mais le problème, c'est que quand il est parti en Inde, ce moine qui est très saint était, comme tous les gens très saints et très purs, un petit peu naïf et un peu idiot, on peut le dire. Et donc, il se faisait piéger à chaque fois par tous les démons et toutes les sorcières qui voulaient manger de sa chair. Comme il était saint, quand on mange la chair d'un homme saint en Chine, on devient immortel beaucoup plus rapidement. Et on acquiert l'immortalité en un moins de temps. Sinon, il faut cultiver sa puissance vitale pendant des siècles et des siècles. Donc, il se fait accompagner dans ce voyage vers l'Occident, qui, pour les Chinois, est l'Inde, d'un singe qui est assez rebelle et qui est muni autour de son crâne d'une couronne de contention qui permet au moine, d'une formule magique, de resserrer la couronne si le singe fait trop de bêtises. Voilà. Et il est dans ce... Il y a un autre personnage qui est le cochon Choubatier, cochon aux 8 vertus. Il y a 7 vertus, mais lui, il en a tellement qu'il en a 8. Et qui est un personnage qui pense qu'à manger et à lutiner. Donc ça fait un trio assez étrange et qui est à l'origine donc, de tas d'aventures, qui est une source inépuisable d'histoires pour l'opéra et pour les marionnettes.
Alors, c'est par leur tête avant tout qu'on les identifie, que le spectateur les identifie ?
Oui, puisque le singe, lui, il a une tête de singe et le cochon une tête de cochon. Mais dans l'opéra chinois, je dis l'opéra donc, parce que comme je vous dis, l'opéra et les marionnettes, c'est la même chose. On identifie les personnages par leur maquillage, par leur costume, par leur barbe et par leur gestuelle.
Y a-t-il des masques, non ?
Il y en a certains qui ont... Il y a un théâtre masqué qui s'appelle le Nuoxi, mais dans l'opéra chinois, les visages sont peints certains personnages, pour les personnages guerriers.
Ouais.
Et les personnages sont tellement typés qu'à la rigueur, en exagérant un peu, on pourrait comprendre un opéra uniquement en en voyant la gestuelle et en voyant les costumes et les maquillages des personnages, puisque l'opéra chinois est un opéra extrêmement codé.
Alors, comment sont fabriquées ce qu'on appelle les marionnettes Hagen ?
Les marionnettes Hagen s'appellent en chinois Putaisi et en taïwanais Poteyi. Ça veut dire théâtre du sac de toile. Elles sont donc jouées sur la main et la base, le gant est en toile, d'où le nom, et la tête, les mains et les pieds sont en bois de camphrier. Les têtes sont fabriquées généralement par des sculpteurs qui s'occupent de la fabrication des statues de dieux dans les temples.
Certains sculpteurs devenaient célèbres, j'ai lu
oui.
ça. Et, est-ce que ça explique justement, c'était donc des têtes faites par des artistes, est-ce que ça explique le raffinement de ces objets?
Le raffinement, il vient, tout interfère et tout s'influence réciproquement. Le raffinement des marionnettes vient du fait que, en fait, elles étaient jouées devant les temples. Elles le sont encore en partie, mais maintenant on en est à faire des choses différentes. Comme elles sont jouées devant les temples pour les dieux, il fallait faire, d'une certaine mesure, oublier aux dieux qu'on ne leur offrait que des marionnettes à la place d'un spectacle d'opéra,
oui.
qui coûte évidemment moins cher. Et donc, on a essayé de créer une technique extrêmement élaborée pour que les dieux soient satisfaits. Ils se sont jamais plaints.
J'ai lu qu'il y avait un rituel auquel procédaient les sculpteurs pour chaque marionnette, un rituel d'ouverture des yeux. J'ai trouvé ça très, très joli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison, dans quoi ça consiste?
La marionnette, s'il s'agit surtout des marionnettes à fil, n'est pas incarnée tant que le sculpteur ne lui a pas ouvert les yeux. Et donc, il s'agit simplement, accompagné d'un petit rituel avec des prières, de mettre une pointe de couleur dans le fond des yeux de la marionnette. Et pour protéger les marionnettes, et pour se protéger aussi de tous les esprits qui pourraient entrer dans le corps des marionnettes, on cache les marionnettes quand on arrête de jouer. Et on leur met un bandeau sur les yeux quand il s'agit des marionnettes à fil. C'est-à-dire qu'on retourne le gant sur la tête de la marionnette pour les marionnettes à gaines, et donc, et comme ça, on est tranquille. Et mon maître m'a toujours expliqué que c'était pour ça qu'il fallait retourner le gant sur la tête, c'était pas du tout pour protéger le maquillage.
D'accord. Et ce sont des objets sacrés ou pas?
C'est compliqué, parce que c'est toujours compliqué la culture populaire. Ce sont des objets qui peuvent être investis d'une certaine sacralité, mais c'est aussi un objet profane. Elles sont jouées devant les temples en offrande aux dieux, mais les marionnettes elles-mêmes ne sont pas sacrées. À la même, c'est la destination qui est sacrée. Par exemple, maintenant, on offre aux dieux, on peut offrir des billets de banque, des bouteilles de bière ou des offrandes de nourriture ou des machines à laver aux dieux. Quand il y a un grand, grand, grand rituel à Taïwan, tous les magasins autour du temple sortent leur stock, les mettent devant le temple et puis après, ils le rentrent. Donc, c'est la destination qui est sacrée, pas l'objet lui-même.
Entendu. Alors, est-ce que ces marionnettes, est-ce qu'on crée aujourd'hui des marionnettes toujours aussi raffinées, justement? Ou est-ce qu'on utilise des marionnettes anciennes du 19e, du 20e siècle? Ou est-ce qu'on fabrique aujourd'hui toujours des marionnettes dans une certaine tradition, la même, celle que vous venez de nous expliquer? Je ne sais pas, j'ai une question.
À Taïwan, on a, depuis que Taïwan s'est rapproché de la Chine continentale, vu la différence des salaires, on fait faire toutes les marionnettes en Chine continentale. Il reste quelques rares sculpteurs à Taipei, mais ils sont vraiment rares. Par contre, les Taïwanais font faire beaucoup de marionnettes, donc au Fujian, à Quanzhou principalement, où elles sont faites d'une façon extrêmement...
Qui est en face de Taïwan.
Qui est la province qui partage la même culture et la même langue avec Taïwan. Et là, il y a d'excellents sculpteurs, dont le plus célèbre s'appelait Tian Jiazhou, et maintenant c'est son petit-fils qui continue à travailler.
Alors, donc vous venez de nous expliquer comment elles étaient en fait fabriquées aujourd'hui. Ce ne sont pas des objets industriels, donc on n'en a pas, ça reste quand même un objet, j'allais dire magique.
ça a été...
C'est entre l'objet d'art et l'objet sacré.
C'est un objet d'art, c'est un objet d'artisan.
D'artisan.
Donc, il peut devenir un objet d'art, puisque maintenant, beaucoup de Taïwanais achètent des marionnettes uniquement pour poser sur, pas sur leur cheminée, mais parce qu'il n'y a pas de cheminée, mais sur leur buffet ou au-dessus de la télévision. Mais c'est un objet qui servait, qui était utilitaire. Mon maître a compris son statut d'artiste à travers mon regard. C'est-à-dire que quand il y a eu des gens qui sont venus le voir du monde entier, quand moi je l'ai fait venir en France, c'est là qu'il s'est considéré comme un artiste. Mais avant, il se considérait comme un plombier. Enfin, au même niveau, il se considérait comme un artisan. Parce que c'était quelque chose qui était complètement intégré dans la vie quotidienne de Taïwan. Il allait jouer tous les jours devant un temple, devant un autre. Il ne bénéficiait pas d'une considération particulière.
Je te laisse une question toute simple. Combien de marionnettes à gaine possédez-vous là, dans votre troupe du Petit Miroir ?
Oh, moi j'en ai beaucoup. J'en ai plus de 200. Mais j'en ai une soixantaine qui ont été sculptées par Tian Qiazhou et qui ont une très grande valeur. Affective aussi parce que pendant la révolution culturelle en Chine, toutes les marionnettes de Tian Qiazhou ou presque ont été brûlées. Et donc, j'ai un trésor que j'ai trouvé chez un antiquaire pour une bouchée de pain à Taïwan dans les années 70, quand, à l'image de la France des années 50 qui jetait leur armoire normande pour acheter du formica, les Taïwanais dans les années 70 jetaient les marionnettes et achetaient des postes de télé. Hein, c'est à peu près. Mais alors maintenant, ça, c'est plus du tout la même histoire.
Heureusement qu'elles sont tombées entre vos mains. Alors venons-en au spectacle, à la magie de ce théâtre entre opéra et marionnettes. Qu'est-ce que le spectateur entend ?
Il entend
du chant, des textes.
Il entend tout, et surtout quand on joue devant les temples, il faut que ça fasse beaucoup de bruit pour chasser les fantômes et les mauvais esprits, puisque ça fait partie du rituel. Et la musique d'opéra chinois, et donc des marionnettes, est une musique qui ne possède pas de son grave. Pour la bonne raison que, comme elles sont jouées uniquement à l'extérieur, les sons graves ne passent pas très loin. Et donc, c'est que des sons très aigus qui, en général, font assez mal aux oreilles, aux gens qui n'ont pas l'habitude de les entendre. Avec beaucoup de percussions, de gongs, et pour accompagner les chants, des violons et le sona, qui est une espèce de petit hautbois tibétain.
Oui, on aura peut-être justement l'occasion d'en entendre un extrait dans quelques instants, là, avec la magie de la réalisation. Il y a des textes
Pour le théâtre de marionnettes, traditionnellement, ce qui n'est pas mon cas, mon maître connaissait 600 pièces par cœur. Chaque pièce faisait 4 heures. Donc, c'est aussi faux de dire qu'il connaissait par cœur. Disons qu'il avait un canevas à l'exemple des aèdes ou des bardes.
Oui, oui.
Il travaillait sur un canevas, mais il connaissait toutes ses pièces par cœur. Qui sont donc tirés du répertoire et adaptés au théâtre de marionnettes, puisque comme il n'y a que 2 manipulateurs, il n'y a jamais que 4 marionnettes sur scène au maximum.
Entendu. Alors, que voit maintenant le spectateur ? Y a-t-il un décor, une scène ? C'est toujours la même ? Visuellement, quels sont les codes ou les clés, tout simplement ?
Il voit un très beau spectacle qui est supporté donc par un orchestre entier. Et ce sont les marionnettes. Il n'y a qu'un seul récitant, en général, qui dit les textes. Son assistant lui fait les combats, en général, parce que ça demande énormément d'énergie de dire le texte et de faire des combats. Donc, quand c'est une pièce guerrière, mon maître était spécialisé dans ce genre. Donc, c'est pour cela que je parle de cela. Les marionnettes qui font une trentaine de centimètres de haut sont pas très visibles de loin.
Oui.
C'est pas grave puisque les principaux spectateurs étaient les dieux. Donc, eux, ils ont d'excellents yeux, comme chacun sait.
Comment le marionnettiste surprend-il le spectateur ?
Le spectateur n'est jamais surpris, parce que tout le monde connaît le répertoire. Ce n'est pas un...
On n'est pas dans le divertissement, dans la surprise, l'amusement.
On n'est pas dans la surprise. Alors, ce qui compte, le théâtre chinois et les marionnettes sont un théâtre d'acteurs, c'est-à-dire qu'on surprend et on satisfait les auditeurs et les spectateurs par la qualité de l'exécution. C'est-à-dire qu'un mouvement que tout le monde connaît depuis toujours, c'est comme quand nous, on mange un croissant, tous les matins on mange des croissants et on apprécie plus ou moins un croissant s'il est bon ou très très bon ou un peu moins bon. Ben, c'est la même chose. On voit toujours le même spectacle, mais on en apprécie chaque jour une nouvelle présentation à travers la qualité du récitant et de,
et
la,
de la gestuelle.
Et de la gestuelle des marionnettes.
Voilà. Il y a donc une gestuelle attendue sur, sur certains personnages qui exécutent certaines figures.
C'est, non, la gestuelle, dans l'opéra chinois, est un opéra de rue. Donc, qui était un opéra itinérant, de même que les marionnettes. Donc, il n'y avait pas de décor. Et pour suppléer à cette absence de décor, on a créé toute une gestuelle pour faire comprendre aux spectateurs qui connaissaient les codes depuis leur enfance, pour faire comprendre aux spectateurs ce qu'il se passe. Alors, un personnage qui rentre dans une maison, par exemple, fera un grand mouvement de la jambe droite, parce que cela signifie qu'il franchira le seuil de la maison. Pour aller d'un lieu à l'autre, il fera le tour de la scène. Et on sait que là, il se déplace d'un endroit à l'autre. Pour ouvrir une porte, les portes chinoises sont à double battant. Donc, on le voit pousser une fois de la main gauche et la seconde fois de la main droite. Et on comprend qu'il ouvre la porte. Et s'il la tire, on comprend qu'il sort de chez lui. Donc, tout cela est très, très, très codé et permet d'éviter les décors.
Alors, comment vous définiriez ce genre théâtral ?
C'est un théâtre codé, c'est le théâtre asiatique qui a beaucoup influencé à travers Artaud et d'autres théoriciens du théâtre, tout le théâtre occidental jusqu'à présent.
Qui vient assister à ces spectacles à Taïwan ou en France ? Puisqu'il y en a aussi en France, vous, par votre troupe, vous faites vivre ce théâtre.
À Taïwan, il n'y a plus beaucoup de gens. Parce que c'est un art qui a du mal à survivre. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est passé d'un objet cultuel à un objet culturel. Donc les troupes, les rares troupes de marionnettes du Nord qui restent, jouent plus dans les centres culturels ou dans des grands temples, mais à l'occasion de festivals où on invite aussi du public. Donc là, c'est un public mélangé, familial. Il y a un autre genre de marionnettes qui sont encore très présentes devant les temples, dans le sud de l'île de Taïwan, qui s'appellent les Tingguang Putaisi, qui, elles, sont des marionnettes beaucoup plus rudimentaires dans la manipulation et extraordinairement kitsch dans leur maquillage, dans les costumes. C'est entre Barbie et Goldorak, les costumes. Et complètement déjanté dans la mise en scène avec des fumigènes, des explosions, des pétarades, de la musique de western spaghetti, tout ce qu'on veut.
Ah oui, la musique.
Pour le sud de l'île. Alors là, ils jouent devant les temples. Et les dieux sont très contents. Les dieux chinois, taïwanais se modernisent très très vite.
Oui.
Pour ce qui est de nous, nous jouons principalement en France pour un public familial et énormément pour des publics scolaires et des fois aussi pour les communautés chinoises en France. Et puis là, nous allons aller jouer bientôt à l'île de la Réunion pour le temple Guandi, qui est un dieu chinois qui est vénéré par la communauté chinoise de la Réunion.
Oui, il y a une forte communauté chinoise à la Réunion. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, autrefois, les troupes jouaient vraiment pour les divinités, parfois sans spectateur, presque j'ai compris, devant ou même à l'intérieur des temples, donc c'était très différent, et qu'il n'y avait pas d'espace symbolique pour délimiter justement le côté théâtral, l'espace théâtral, et puis le culte. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous êtes affranchi, vous, de cette... et comment aussi dans l'histoire de Taïwan, comment est-ce qu'on s'est affranchi de ce lien religieux quand même très fort dans la création des spectacles d'aujourd'hui ?
Il y a une chose qui est vraiment formidable à Taïwan, c'est que il y a une tolérance absolue pour ce qui est des religions. J'étais à Taïwan dans les années 70, et c'était en plein pendant les événements d'Irlande du Nord, et mon maître n'a jamais compris pourquoi des chrétiens se tapaient dessus alors qu'ils étaient tous à peu près les mêmes. Enfin, vu de Taïwan, c'est vraiment très proche. Donc ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Donc il y a un syncrétisme dans la religion populaire, surtout à Taïwan, qui vous libère d'énormément de problèmes. Et ce syncrétisme dépasse même l'ordre du religieux, puisque moi, je suis absolument athée. Et je l'ai toujours dit très clairement à mon maître, parce que quand on allait jouer devant les temples, il y a quand même des rituels à exécuter avant les spectacles. Et je lui ai dit, mais moi, j'y crois pas. Il me disait, mais je te demande pas d'y croire, je te demande d'exécuter un rituel. Voilà. Donc, il n'y a jamais eu de clivage entre le profane et le sacré. C'est une notion qui est totalement incompréhensible, de même qu'il n'y a pas de clivage entre l'opéra et les marionnettes. La culture chinoise est une culture unique, enfin qui regroupe tous ces genres. Et on fait souvent allusion, même dans la vie quotidienne, à des scènes d'opéra comme de proverbes. La gestuelle de l'opéra, elle est reprise. Chaque habitant de Taïwan peut vous faire une gestuelle, pas raffinée, mais il fera pour signifier quelque chose une petite gestuelle qui est tirée de l'opéra. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air, dans le sang des gens, et il n'y a pas de clivage comme ça. De la même façon, on peut moderniser les choses sans que ça gêne absolument personne. Et donc, actuellement, je crois que les dieux regardent des spectacles qui sont des spectacles de variété, des chanteuses de variété, des films. Et j'ai même vu des spectacles pornographiques vers aux divinités. Petite précision, qui ne sont pas uniquement pornographiques pour être pornographiques, qui sont aussi une résurgence d'un culte de fertilité qui avait été censuré pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui revient sous une forme plus moderne.
Sous une forme différente. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois votre maître Li Tianlu, c'est lui qui vous a enseigné cet art. Pourriez-vous nous en parler? Pourquoi cet homme est-il considéré aujourd'hui comme un pilier aussi de l'identité nationale taïwanaise? Et comment s'est faite votre rencontre d'abord?
Moi, je suis allé le voir quand j'ai quitté Paris où je traînais sur les bancs des Langzhou. Je suis allé le voir et il était un peu...
Les Langzhou, l'INALCO, donc l'Institut National des Langues Orientales. Et effectivement, on l'appelle comme ça.
Voilà. Donc, je suis allé le voir quand j'ai quitté l'Institut des Langues Orientales, très rapidement. Et je lui ai demandé d'apprendre les marionnettes. J'avais rencontré ces petites marionnettes à Gaines, à Paris, au musée Kwakon, qui était dirigé par Jacques Pimpano. Et j'ai tout de suite été fasciné par elles. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Je ne me pose pas la question.
Et vous avez tout de suite pensé à aller le rencontrer?
Comme je passais ma vie à regarder ces marionnettes dans les vitrines, Jacques Pimpano m'a montré un petit film de 10 minutes, même pas. Et puis j'ai voulu aller apprendre. Pourquoi C'est comme on tombe amoureux, hein. C'est pareil, on ne sait pas pourquoi et c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est étrange, un jeune homme de 20 ans, après mai 68, aller apprendre dans un pays qui n'était pas très qualifié pour sa démocratie à cette époque-là, apprendre les marionnettes auprès d'un maître, alors qu'en France, on avait plutôt tendance à jeter tous les maîtres. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'en ai parlé avec un ami qui a toujours pas compris, moi non plus. Mais voilà, c'est comme ça.
En tout cas, cette mission de passeur, quoi, là, quand même.
Je ne me suis jamais senti investi de cette mission.
Non, mais ça se fait, quoi.
Ça s'est fait comme ça, mais vraiment...
comme on tombe amoureux, comme vous l'avez dit.
À mon corps défendant.
Je crois que c'est la plus belle façon de décrire cette passion et cette rencontre. Mais comment se transmet justement cet art de maître à disciple, puisque nous ne sommes pas très familiers de ces transmissions?
Par le travail.
Ouais. Moi, vous avez une anecdote, quelque chose?
J'allais tous les matins chez mon maître pendant des années. Et il me faisait travailler. J'étais accompagné de Catherine Larue, avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps. Et on a travaillé pendant des années et des années. Et ses enfants étaient très choqués parce qu'il ne nous a jamais battus, alors que lui, il a beaucoup battu ses enfants. Voilà. On avait quand même un statut un peu supérieur, ou un peu pas supérieur, mais un peu différent de celui des enfants de M. Li. Mais par contre, il n'a jamais voulu nous faire payer.
Oui.
Alors que moi, dès le début, je lui ai proposé de le payer, ce que je trouvais ça normal, je trouvais ça absolument normal. Et il a refusé. Et j'ai appris après sa mort par son fils que son fils lui avait dit « Tu nous as jamais fait payer nos cours et si quelqu'un vient apprendre avec toi, tu n'as pas à le faire payer. » Et donc, c'était toute la famille qui nous a accueillis comme ça et qui donc nous a reconnus dès le début.
Adopté,
on peut dire, voilà.
Et c'est l'usage aussi pour les autres disciples taïwanais qui apprennent, ou c'est un statut un peu particulier du fait que vous veniez de loin ou
Je crois qu'il y avait un statut un peu particulier pour les étudiants étrangers, mais par contre, il y a une chose que j'ai entièrement respectée, c'est pas la soumission, parce que j'ai jamais été soumis à Monsieur Li, mais souvent les Taïwanais me disaient « mais t'es plus Taïwanais que nous », parce que j'étais extrêmement fidèle et attentif à M. Li. Alors, on ne l'a jamais payé, mais on l'a payé en retour en respectant ses volontés. Lui, il voulait qu'on lui fasse de la publicité parce que, bon, on était des étrangers, qu'on pouvait facilement contacter les journaux. Donc, on a fait ça. On l'a, après, sans qu'il nous le demande, on a voulu absolument l'inviter en France. En fin de compte, il a vécu un an en France, à travers ses différents séjours. Il était venu 14 fois en France.
Oui.
Donc, voilà, on l'a... Mais ce n'était pas le payer de retour, c'était continuer à vivre avec lui. Et à...
C'était encore échangé.
C'était échangé, absolument.
Et aujourd'hui, son image, est-ce que ça représente quelque chose de très fort dans l'identité nationale taïwanaise? Parce qu'il est un homme renommé, c'est pas quelqu'un qui a été oublié.
C'est devenu un symbole de la taïwanitude à travers les marionnettes et aussi à travers le film qu'a fait Rosia Ossienne, Le Maître de marionnettes.
Et on peut le voir, ce film?
On peut le voir, il passe sur Arte à peu près tous les 6 mois.
On va prendre rendez-vous.
Il faut le voir sur grand écran parce que c'est un film splendide qui mérite d'être vu dans des bonnes conditions.
Oui.
Qui a été primé à Cannes d'ailleurs et le prix spécial du jury en 1993. C'est un très grand film. Monsieur Li a été fait trésor national vivant à Taïwan et il a même été décoré du titre de chevalier des arts et lettres par le gouvernement français. Les Taïwanais ont toujours eu un problème d'identité parce qu'ils ont été vendus par la Chine aux Japonais au traité de Kimonoseki. Après, ils ont été reconquis par les nationalistes de Chiang Kai-shek en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont maintenant dotés d'une démocratie qui est une des rares démocraties d'Extrême-Orient, qui est extrêmement vivante. Et ils ont besoin de se trouver une identité. Et donc, s'il y a une chose qui est vraiment taïwanaise, ce sont les marionnettes. C'est pour ça qu'elles ont un rôle aussi important dans l'inconscient. C'est plus un objet que... Je vous dis, on ne va plus voir souvent des spectacles de marionnettes tels que M. Li les présentait à Taïwan. Les troupes traditionnelles jouent plus à l'étranger qu'à Taïwan. Mais par contre, il y a donc toutes ces marionnettes, les Tingguang, qui sont plutôt dans le sud de l'île, qui sont jouées devant les temples, parce qu'elles ont un rôle culturel extrêmement important. Et il y a un autre genre de marionnettes, alors là, qui est extrêmement populaire aussi, qui s'appelle les Pili, qui sont 10 fois plus déjantées que les Tingguang et qui passent uniquement à la télévision. Et là, c'est délire complet.
Voilà, j'allais vous demander si justement c'était relié par d'autres supports, la télévision, Internet, des films, vous l'avez évoqué, mais c'est un film très particulier. Mais là, justement, vous pouvez nous donner un exemple de ces...
Il y a des émissions. Il y a deux chaînes de télévision qui sont consacrées uniquement aux marionnettes. Et il y a d'autres chaînes câblées où il y a des spectacles de marionnettes avec des récitants. C'est donc extrêmement vivant. Bon, ça n'a pas grand chose à voir, ce sont des marionnettes contemporaines, d'un goût étonnant, c'est de la culture populaire avec tout ce qu'elle a de bien et tout ce qu'elle a d'un peu triste, quoi, hein, parce que c'est très inventif, très drôle et à la fois complètement fou et kitsch et étrange, quoi. Mais c'est très 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 vivant. Mais tous ces genres, que ce soit le Tingguang Putaisi ou le Pili, sont issus des marionnettes traditionnelles de Taïwan. Alors il y a aussi une création contemporaine plus culturel, plus artistique, et mené par de jeunes artistes taïwanais, et puis par aussi des étrangers qui ont appris les marionnettes avec Monsieur Li à l'occasion de stage quand il est venu en France, et puis aussi par nous-mêmes, par le Théâtre du Petit Miroir.
Alors, vous avez nommé ces marionnettes plusieurs fois, nommé, touché, animé, raconté des histoires, et se faire vivre ces marionnettes. Jean-Luc Pinceau, ce type particulier de marionnette spécifique, vous nous avez donné son nom tout à l'heure en chinois, moi je suis incapable de le redire.
Putaisi.
Donc ça c'est le nom indien, c'est ça?
Alors non, ça vient du nom indien, Putali.
Parce que le théâtre de la paume... Moi, j'ai trouvé ça très joli. Et le théâtre de Sac de Toile, donc, dont vous avez parlé tout à l'heure. Enfin, bref, cette façon de nommer ces objets dans cette langue que vous avez évoquée, qui sont représentatifs à la fois de l'objet et de sa fonction. Comment vous appelez vos marionnettes? Par ce mot chinois ou par...
Je m'appelle marionnette again.
Oui, oui, oui. Tout simplement, parce que c'est un mot qui peut nous paraître comme ça, a priori, plus fade, mais bon, un peu moins poétique peut-être.
Ouais,
je me demandais si vous aviez personnellement une façon de les nommer. Non, pas spécialement.
Tout. Pas du tout, je ne suis pas du tout néo-pro-exotique.
D'accord, vous êtes vacciné de...
Oui, complètement.
Parfait. Quelle écriture originale faites-vous de cette tradition théâtrale chinoise?
On a adapté plusieurs textes occidentaux et on a créé plusieurs histoires. Bon, moi, je suis extrêmement terre à terre. En France, on joue principalement pour les enfants, puis c'est mon public. Il y a beaucoup de marionnettes en France qui sont faites pour les adultes. C'est pas mon truc. Donc, j'ai adapté plusieurs spectacles. On a monté Voyage d'Ulysse, Aladdin, d'autres spectacles, évidemment, beaucoup de spectacles du répertoire de Maître Lee qu'on a adapté. Donc tiré du voyage en Occident, l'histoire du roi des singes, et puis d'autres légendes comme la légende du serpent blanc, ou Songba le tigre, qui est tiré du roman des bords de l'eau. Là, on va créer un spectacle donc pour le dieu Guangong du temple de Saint-Denis de la Réunion, qui sera tiré du roman des Trois Royaumes.
C'est une création pour...
Ça sera une création
pour l'île
de la Réunion, pour le dieu Guangong, puisque c'est un héros d'un des grands classiques chinois. Oui. Donc, on va faire un extrait du roman.
Et donc là, vous choisissez un extrait, vous
Ah ben, on le fait vraiment à la taïwanaise, une commande.
D'accord.
Voilà, c'est le directeur du temple que j'ai rencontré il y a quelques temps qui m'a dit « J'aimerais bien que vous nous fassiez tel extrait
de tel texte littéraire.
Alors, comme il ne parle pas un mot de chinois, il faut que je retrouve en chinois... à quoi ça correspond. Donc, mais bon, c'est notre cuisine, ça, quoi.
D'accord. Et une petite adaptation, j'imagine. Il y a une réécriture.
Oui, bien sûr, parce que simplement, les spectacles à Taïwan durent 4 heures.
Oui.
Donc, moi, je ne peux pas jouer 4 heures devant un public, soit un public familial, soit un public d'enfants. Donc, on adapte. Et M. Lee a fait un bond jusqu'au plafond quand je lui ai dit que j'allais monter La Légende du Serpent Blanc, qui est une très belle histoire, en une heure. Et je vais me vanter un peu. Ça m'a fait très plaisir le jour où j'ai vu à Taïwan la troupe de M. Lee reprendre la mise en scène que M. Lee m'avait transmise en l'adaptant.
Oui.
Et il l'avait reprise à Taïwan de la même façon.
Ah, effectivement, donc, là, c'est un bel hommage.
Voilà, donc mais il y a toujours, c'est pas un hommage, parce qu'il y a toujours des allers-retours, comme ça, ça se fait naturellement. Personne ne s'est dit, ah tiens, on va prendre cette version-là. Ça se fait comme ça, quoi. Mais eux aussi ont dû s'adapter, et comme ils avaient une fonction de plus en plus culturelle, il fallait qu'ils fassent des spectacles plus courts. Voilà.
Alors, justement, on voit toute l'évolution là. Et sur quel projet d'écriture, d'adaptation avez-vous envie de travailler particulièrement? Est-ce que quand ce ne sont pas des commandes, quand vous mettez à la création d'un nouveau spectacle, est-ce que vous avez un champ à explorer particulier?
J'ai un champ qui est mon favori, c'est la mythologie.
Oui.
Et donc, avec les marionnettes taïwanaises, j'ai évolué aussi, puisque je fais maintenant des créations qui ne sont pas forcément avec la technique de manipulation pure des marionnettes à gaine, mais elles sont toujours présentes dans l'esprit, sinon dans la lettre. Et donc, j'ai travaillé sur la mythologie de plusieurs pays. Donc, on a commencé par la mythologie chinoise. Après, j'ai monté l'Odyssée. Ensuite, j'ai fait le Remke, qui est tiré du Ramayana, que j'ai créé au Cambodge, avec des enfants du Conservatoire Royal de Danse de Phnom Penh. Là, c'était du théâtre d'ombre. Et j'ai aussi travaillé pendant un an dans une tribu maori en Nouvelle-Zélande sur la mythologie maori. Voilà. Et puis...
Ils sont filmés, vos spectacles ?
Non, pas tous. Parce que c'est souvent dans des conditions un peu étranges. Vous voyez, les tribus maoris ou les... Le Cambodge, c'était quasiment...
Je plaide pour les fous furieux de la curiosité.
Non, on a quelques photos, mais je suis dans le spectacle vivant et je n'ai pas l'habitude de faire des archives. C'est un tort, peut-être.
Il faut espérer que d'autres personnes, d'autres rencontres feront vivre tout ça. C'est peut-être le meilleur moyen de les transmettre. J'allais vous poser comme... dernière question. Pour vous, les marionnettes sont-elles des intermédiaires ?
Je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, c'est pas... Je vous dis, c'est vrai qu'on intellectualise plus que M. Lin le faisait, parce que lui, il n'a jamais théorisé son art. Et moi, je me suis mis, sans le faire exprès, dans sa position. Alors, je ne veux pas dire que je ne comprends pas cette question, mais je ne me la suis jamais posée. Chacun voit dans les marionnettes manipulateur ou spectateur, ce qu'il veut bien y voir.
Très Très bien. Alors, merci Jean-Luc Pinceau. Je rappelle que vous êtes le lauréat au titre de l'année 2006 du prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise qui vient d'être décerné le 11 juin 2007, que la Fondation a été créée en 1996 justement pour renforcer les relations culturelles entre Taïwan et l'Europe. Le Conseil national des affaires culturelles de Taïwan et l'Académie des sciences morales et politiques ont signé une convention et institué ce prix annuel dont vous bénéficiez cette année. Vous savez que la mission de l'Institut de France, telle qu'elle était définie par de nous en 1796, c'est en pleine possession de la liberté, la République nous appelle pour rassembler et raccorder toujours les branches de l'instruction, reculer les limites de la connaissance, recevoir, renvoyer, répandre les lumières de la pensée, tous les trésors du génie.
Non, mais ça fait plaisir de voir qu'un art populaire est honoré
par ce prix, voilà. Après avoir récompensé l'INALCO, qui a été votre institut de formation, mais qui avait aussi récompensé l'École française d'Extrême-Orient, le département chinois du Collège de France, effectivement, et puis l'an dernier, la présidente de l'Association internationale des professeurs de français, Madame Li Peihua. Mmh. Donc effectivement, il y a une belle évolution. On passe des grandes institutions à des choses aussi pratiques comme la transmission de la langue et là, à travers l'exemple des marionnettes, la culture, elle est une culture vivante.
Culture populaire.
Populaire. Merci beaucoup Jean-Luc Pinceau pour votre témoignage et félicitations pour ce prix.
Merci beaucoup.